Le journal de la rédaction vous est donc présenté par vous, Mathieu Laurent. Bonsoir.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Le ton monte entre la ministre des Transports et les syndicats impliqués dans la grève de la SNCF comme dans la réécriture de la convention collective du secteur ferroviaire. Les rescapés de l'Aquarius sont hors de danger. Le navire est arrivé à bon port en fin de matinée à Valence en Espagne. Un autre périple attend ses réfugiés. Invité de ce journal, Bérangère Taxil, professeur de droit à la faculté d'Angers, qui co-signe avec d'autres juristes une tribune dans le journal Le Monde intitulée Aquarius, non, l'Italie n'est pas la seule responsable. Aujourd'hui, c'est le 6e anniversaire de l'emprisonnement du blogueur saoudien Raif Badawi dans les geôles pour avoir ouvert en 2008 le blog Free Saudi Liberals. Ce matin, à l'appel de l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis, les représentants d'une trentaine d'associations réunies à Paris ont exigé sa libération. Reportage de David Ravier. Des créneaux de silence pour sanctuariser des périodes sans décollage, sans atterrissage des avions, pour perturber le moins possible les lycéens. C'est le commandant de la base aérienne 118 qui justifie une restriction des rotations de ces rafales. Il faut leur laisser tout loisir de phosphorer en paix ces futurs bacheliers vertiges. La SNCF, qui vit jusqu'à mardi sa 16e séquence de grève, a elle prévu des services de bus de liaison, entre autres, afin que l'épreuve de philosophie se déroule dans les meilleures conditions possibles. Principe de précaution dont ne s'est pas alourdie la ministre des Transports, qui a ciblé la CGT cheminot qui, selon Elisabeth Borne, mène une grève politique. La CGT aurait perdu le sens du combat. Dans le viseur de la ministre, qui prétend qu'une réforme de la convention collective du secteur ferroviaire est en vue, avec les syndicats réformistes comme l'UNSA et la CFDT, il y a également Sudrail. Sudrail qui riposte ce soir par la voix de son secrétaire fédéral, Fabien Dumas.
On va pas brader un siècle de statut des cheminots. On va pas signer un chèque en blanc à ce gouvernement. Voilà, ils viennent casser le statut des cheminots. C'est l'équivalent de notre convention collective en nous renvoyant à de futures discussions avec le patronat pour en créer une autre convention collective. Bah, écoutez, non, on va pas brader un siècle de convention collective des cheminots parce qu'il y a le bac en 2018. Puis après, ça aurait été quoi? La Coupe du Monde? Puis après, ça aurait été quoi? Enfin, les courses de Noël? Non, il y a toujours une bonne raison d'après ce gouvernement pour pas se battre contre lui. Bah, nous, on se bat. On se bat bac ou pas. Évidemment qu'on sait que cette grève a des conséquences, mais une grève, quand elle n'a pas de conséquences, elle ne pèse pas et elle sert à rien. Ben, nous on se bat. On se bat avec nos moyens constitutionnels. Donc il y a la grève et la manifestation, on se bat.
Fabien Dumas au micro de Delphine Gauthier. Sans ménagement, le porte-parole du gouvernement commente les indemnités de départ à la retraite de l'ex-PDG de Carrefour, Georges Plassat. 14 millions d'euros dans la musette dans un premier temps, 10 millions après tollé et cri d'orfraie. C'est un comportement de voyou. Quand on a échoué, on part sans gloriole, selon Benjamin Griveaux. Avant d'ajouter, il a 500 000 euros de retraite par an. Il aurait dû renoncer à son package de sortie. Fin de citation. Le lexique de l'apaisement, cette fois après quelques salves tirées par la numéro 2 de Les Républicains sur le numéro 1 du mouvement. Virginie Calmels a reproché à Laurent Wauquiez de ne défendre que sa propre ligne, de ne pas être rassembleur, de prendre le risque de rétrécir le mouvement. Et c'est une récidive. La semaine dernière, elle avait sévèrement critiqué un tract tiré à plus d'un million d'exemplaires, titré « Pour que la France reste la France ». Méchante rafale de sommet. Il était urgent d'en appeler à un médiateur, en la personne de Damien Hamad, Abad, vice-président de LR.
Le débat en interne est sain, le débat sur la place publique est contre-productif. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse échanger ensemble sur des points d'amélioration dans le fonctionnement, mais au-delà de ça, je demande aussi à ce qu'on puisse avoir de la loyauté, un esprit de responsabilité. Quand on est dans l'équipe dirigeante, on doit apprendre à chasser en meute pour éviter justement des querelles internes qui éloignent finalement les électeurs de la droite. On a besoin des talents de tout le monde. Virginie Calmels incarne l'aile libérale de notre mouvement. D'autres incarnent une aile se centrer sur l'autorité de l'État ou sur une dimension plus humaniste et sociale. Et je crois qu'on a déjà travaillé ensemble. Nicolas Sarkozy a su faire ce rassemblement. Je ne vois pas pourquoi ce que Nicolas Sarkozy a réussi à faire, Laurent Wauquiez ne serait pas capable de faire. Il a cette volonté de rassembler. Il faut qu'on y fasse confiance.
Des propos recueillis par Estelle Schmitt. Épuisés, traumatisés et remplis d'espoir, les 630 réfugiés secourus par l'Aquarius sont entre les mains des ONG espagnoles à Valence au terme d'une semaine d'errance au large des côtes italiennes. Une semaine riche en remous politiques, on va y venir. En milieu d'après-midi, SOS Méditerranée, qui a affrété l'Aquarius avec Médecins Sans Frontières, a livré des éléments quant à l'état de santé de ces femmes et de ces hommes qui ont fui via la Libye, la guerre et la misère économique. Asiba Hadj Sarawi est conseillère aux affaires humanitaires pour Médecins Sans Frontières.
Compte tenu des conditions dans les sanitaires dans lesquelles ils ont été détenus ou dans lesquelles ils ont été retenus en captivité, on a un taux très élevé de gale, avec un risque de surinfection des plaies liées à la gale qui peut être dangereux. Parmi les 630 que nous avons secourus, un certain nombre souffraient de brûlures chimiques qui peuvent être assez profondes et qui nécessitent des soins médicaux très attentifs. Nous avions également 6 femmes enceintes. Tout le monde a été pris en charge. Certains vont aller à l'hôpital. Les femmes enceintes vont aller à l'hôpital. Les cas de brûlures sont déjà à l'hôpital. Les autorités espagnoles ont très bien organisé les choses. De ce point de vue-là, maintenant, les grandes incertitudes sont plutôt sur quel statut réservé à ces différentes personnes, quelle procédure les attend, quel type d'aide juridictionnelle ou d'autres organisations pourraient-elles avoir.
Asiba Hadj Sarawi au micro de Yann Galli. Que va-t-il advenir de ces 630 rescapés? Les autorités espagnoles vont examiner les dossiers un à un. Bien sûr, l'Italie a manqué à son devoir de sauvetage, mais quid des autres membres de l'Union européenne en la matière? C'est la question que nous avons posée à Bérangère Taxil, professeur de droit à la faculté d'Angers, qui co-signe avec d'autres juristes une tribune dans le journal Le Monde datée de ce week-end intitulée « Aquarius, non, l'Italie n'est pas la seule responsable. Les gouvernements européens doivent faire du sauvetage en mer une priorité, insiste MSF, mais Bérangère Taxil, il existe avant tout des textes.
Oui, effectivement, deux conventions internationales en 1974 et 1979 qui imposent aux États de déterminer des zones de recherche et de sauvetage en mer et de procéder au sauvetage de la vie humaine en mer également. Et puis, en 2004, ces conventions ont été complétées par un amendement qui impose aux États de respecter une obligation de débarquer les personnes en détresse dans un port sûr et dans un délai raisonnable. Concepts qui font l'objet d'interprétations assez variables. Il n'y a pas en revanche d'obligation de débarquer dans le port le plus proche, mais le délai raisonnable amène bien sûr à des questions de proximité également.
Est-ce que les États respectent cette convention ?
Alors, les deux conventions en droit de la mer comportent des obligations pour sauver les personnes en détresse, qu'elles soient demandeurs d'asile, qu'elles soient réfugiées, qu'elles soient migrants, peu importe. En revanche, la convention sur le statut de réfugié qui impose aux États de laisser entrer les demandeurs d'asile aux fins d'étudier leurs demandes, eh bien cette convention-là, oui, elle est respectée par chacun des États, mais sans qu'il n'y ait vraiment de système européen totalement perfectionné et par conséquent, les États ont chacun des marges de manœuvre extrêmement importante dans la procédure de détermination du statut de réfugié. Ce sont là deux choses qui doivent être comprises en même temps dans le contexte de l'Aquarius.
Alors, l'Union européenne, dites-vous, est dépassée par les États et vous décrivez une crise de la solidarité. Que voulez-vous dire au fond ?
Oui, alors que le droit de l'Union européenne et le droit des réfugiés européens et internationaux comportent des obligations de coopération tant dans le sauvetage en mer que dans les mécanismes d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et ce principe de solidarité générale, eh bien, n'est guère mis en œuvre dans la mesure où les États ont, dans la politique de l'asile et de l'immigration, vraiment gardé le contrôle du processus de décision. Et l'Union européenne n'a pas les moyens d'imposer aux États ce respect de la solidarité actuellement. Par conséquent, on fait reporter une charge vraiment très importante sur les pays du sud de l'Europe, que ce soit l'Italie, la Grèce ou même l'Espagne, qui vont être les premiers pays dans lesquels les migrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés arrivent. Et cette crise de la solidarité, eh bien, se traduit par la fermeture des frontières terrestres qui entraîne parallèlement une augmentation des flux en Méditerranée. Et puis cette crise de la solidarité, elle mène les États d'Europe de l'Est ou du Sud aussi à ériger des murs, des barrières, des frontières à nouveau pour empêcher ces flux migratoires.
Alors Emmanuel Macron et Giuseppe Conte ont l'intention de créer des centres européens dans les pays de départ. Est-ce légal, pertinent, efficace ?
Eh bien, j'aurais tendance à dire que là encore, les outils juridiques existent déjà, puisqu'il existe des visas Schengen que les États peuvent délivrer à partir de leurs ambassades situées dans les États d'origine des réfugiés. Et donc, ces centres européens de départ, j'imagine que s'il s'agit de donner des visas aux demandeurs d'asile pour qu'ils puissent venir donner l'asile, eh bien, les mécanismes juridiques existent. Si ce n'est que la France, comme les autres, hein, comme l'Italie, surtout dans le contexte actuel, refuse d'élargir ses voies, de donner des visas ou d'étudier des demandes d'asile dans les consulats situés dans les pays de départ. Mais dans les pays de départ, il y a aussi des difficultés inhérentes au traitement, puisque en Libye, il est difficile quand même d'aller à une ambassade pour demander l'asile. Les pays de départ sont des pays qui sont en guerre, qui font l'objet de persécutions systématiques. Et donc, cela nécessite, de la part des pays européens, de dialoguer avec ces États. Et il est difficile quand même de les considérer comme des pays sûrs ou des pays tiers sûrs avec lesquels on va pouvoir vraiment mettre en place des partenariats pour réguler ces flux migratoires. Donc, il faut éliminer ces questions d'endiguement à l'égard d'États tels que la Libye, puisqu'on ne peut pas refouler les demandeurs d'asile vers la Libye. En revanche, peut-être qu'il faudrait davantage développer, dans l'idée de ces centres européens de pays de départ, des systèmes de parrainage comme il existe par exemple au Canada, qui va chercher les réfugiés sur place et qui permet à des personnes privées, des familles par exemple, eh bien de ramener certains demandeurs d'asile, certains réfugiés qui sont identifiés à distance. Il peut y avoir des solutions, elles existent en droit. Les outils juridiques existent. Il faut les mettre en œuvre.
Bérangère Taxil, professeur de droit à Angers, qui co-signe une tribune dans le journal Le Monde. Aquarius, non, l'Italie n'est pas la seule responsable. Six longues années derrière les barreaux d'une prison saoudienne. Aujourd'hui, c'est le sixième anniversaire de l'emprisonnement du blogueur saoudien Raif Badawi dans les geôles pour avoir ouvert en 2008 le blog Free Saudi Liberals, site militant pour une modernisation du royaume. Sa condamnation à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet avaient ému la communauté internationale. Ce matin, à l'appel de l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis, les représentants d'une trentaine d'associations se sont donné rendez-vous symboliquement au pied de la statue de la liberté sous le pont de Grenelle à Paris pour exiger sa libération. Ils en appellent notamment au nouvel homme fort d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, le seul habilité à pouvoir libérer le blogueur. Annie Sugier est la présidente de la Ligue du droit international des femmes. Elle est avec David Ravier.
Je pense que l'homme fort d'Arabie Saoudite, MBS, montrera sa force en libérant Badawi. Je crois qu'il y a deux mesures de l'ouverture de l'Arabie Saoudite à la modernité démocratique, c'est d'une part la libération de Raif Badawi et d'autre part l'égalité entre les hommes et les femmes en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de libération d'un peuple sans la libération des femmes, sans la libération de quelqu'un qui savait ce qu'il risquait. Il a reçu déjà une centaine de coups de fouet, il devrait en recevoir 1000. Il a été condamné à 10 ans de prison. Il savait, et c'est en sens qu'il est un héros. L'histoire nous montre qu'on arrive à la démocratie que grâce à des Raif Badawi. Le fait qu'il y ait 100 000 signatures, plus de 100 000 signatures, et ça continue à monter, démontre la sensibilité de cette cause pour l'opinion publique, non seulement nationale, mais internationale. Tout à l'heure, quand nous étions en train de nous réunir ici, il y a eu un jeune homme et une jeune femme d'Arabie Saoudite qui ont tout de suite réagi à ce que nous faisions. Donc je pense qu'en Arabie Saoudite aussi, les gens attendent ça. C'est totalement injuste. Ce jeune homme n'a fait qu'exercer son droit à la liberté de parole.
Les talibans afghans refusent de prolonger la trêve de 3 jours conclue avec Kaboul. Le président Ashraf Ghani, qui a l'ambition de respecter ce cessez-le-feu, négocié à la faveur de la fin du Ramadan, est malmené par ses adversaires politiques qui lui reprochent d'avoir laissé des effectifs talibans pénétrer dans des zones contrôlées par les troupes gouvernementales. Dans l'état de Borno, nord-est du Nigeria, 31 personnes sont mortes dans des explosions dans 2 districts à environ 90 km de Maïdougouri, dans cette région où sévissent des recrues de la secte islamiste Boko Haram. Les très grandes lignes météo de demain, lundi, après un week-end nuageux et couvert, de la lumière et des températures minimales, comprises au petit matin entre 12 et 20 degrés. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.